Dominique Vallière, ben, ça tire lentement mais sûrement à sa fin, cette campagne électorale. Et lundi, en fin de journée, au cours de la soirée, voire de la nuit, il y aura possiblement un nouveau gagnant. Et ça se prépare, ces transitions-là.
Oui, tout à fait. Ce matin, je voulais te parler d'un sujet qui fait rarement l'actualité, mais il y avait un article ce matin dans la presse. Fait que je me suis dit, quelle bonne idée pour faire du minage, puis présenter ça peut-être aux auditeurs, aux auditrices qui sont moins familiers avec les comités de transition. C'est un peu particulier parce que dans toute campagne électorale, il y a des gens qui travaillent en parallèle et qui, eux, organisent, structurent, planifient les premiers jours d'un mandat d'un gouvernement, donc caquiste, libéral ou péquiste. Et c'est vraiment drôle parce que, tu sais, quand une campagne électorale est serrée, tu te dis comment ça se fait que tout le monde n'est pas en train de faire des appels puis de s'assurer que qu'il va servir ce comité de transition-là.
Oui.
Mais non, effectivement, c'est en parallèle. C'est des gens, souvent des grands fonctionnaires de l'État qui vont commencer sous les ordres du chef ou de la chef du parti à dessiner les premiers contours. Donc, dans le fond, les lois, les décrets, trouver les chefs de cabinet, les attachés de presse. C'est une job qui est très secrète, je dirais, pas parce que on veut le cacher, mais parce que c'est pas très flamboyant dans sa nature là. 5 personnes autour d'une table qui se disent bon, on va hausser les redevances sur l'eau au jour 17 de X nombre de sous. C'est comme ça, mais c'est très intéressant. Puis c'est des gens qui ont une empreinte très importante sur les 100 premiers jours, les 150 premiers jours d'un gouvernement. Puis voilà, c'est particulier parce que des comités de transition, il y en a toujours qui sont créés et qui servent à rien, hein, parce que
ben, assurément, t'es un seul gagnant, ben oui.
Exactement, mais les gens participent généralement de bon cœur parce que effectivement, si t'as tiré le numéro gagnant, tu vas avoir une très grande influence sur les premiers jours du Québec.
Et le comité de transition doit-il travailler? Je te donne l'exemple. Mettons que les libéraux sont battus lundi. Est-ce que ton comité de transition va travailler avec le comité de transition du parti perdant ou ça n'a pas rapport?
Habituellement, t'as le secrétaire général du gouvernement, donc le plus haut fonctionnaire du gouvernement sortant, qui va lui faire une passation de dossier avec le secrétaire général qui va être du nouveau gouvernement. Mais sinon, au niveau des politiques comme telles, il y a pas de grande collaboration. Les partis jouent des tours. Souvent, moi, je te donne, oui, en 2003, quand le Parti québécois a perdu le pouvoir et que les libéraux sont arrivés, toutes les manettes de toutes les télévisions du building, dans le fond, de l'édifice du premier ministre avaient été mises dans une boîte. Puis on avait mis une note disant « Vous n'aurez pas à chercher, voici toutes les manettes. » Mais là, il fallait que les gens soient en mesure de pairer la bonne manette avec la bonne télévision. On se disait « C'est pas grand-chose, c'est des farces, mais ça va les occuper pendant une couple de jours. » Moi, je me souviens, en 2012, quand on est entré dans les bureaux du premier ministre à Montréal, les libéraux n'avaient pas vraiment fait le ménage. Il y avait encore plein de caricatures de Mme Marois.
Oui.
Les murs. Mais bon, c'est une drôle d'atmosphère. Puis je vais y revenir au début de la semaine prochaine quand ça va être plus clair, si jamais il devait y avoir un nouveau gouvernement, parce que les libéraux, ils n'ont pas tant besoin de comité de transition s'ils gagnent, ils sont déjà au gouvernement. Mais pour expliquer un peu les premiers jours aux auditeurs, c'est assez particulier quand tu entres dans les bureaux, que tu n'as pas encore de priorité, que tu n'as pas encore de collègues, que tu n'as pas encore... L'atmosphère est vraiment sympathique, puis j'y reviendrai, mais bref...
Est-ce qu'ils en ont tous un comité de transition?
Bon, est-ce que Québec solidaire a un comité de transition? Peut-être, sauf que normalement, tous ceux qui pensent avoir une réelle chance de gagner en ont un parce que t'as pas le choix.
Okay.
T'arrives, tu nommes 20, 23, 25 ministres, ça te prend des directeurs de cabinet assez rapidement. Faut que tu sois capable de les briefer, là, donc de faire un cahier pour dire voici où sont les différents dossiers sur lesquels vous allez devoir travailler. Parce que il ne peut pas y avoir... De vacances du pouvoir. Il peut pas y avoir de moment où le Québec n'est pas gouverné. Donc, il faut que ceux et celles qui arrivent soient opérationnels.
Presque au jour 1.
Presque au jour 1. Mm-hmm. Alors, voilà, donc, Denis Lessard, ce matin, qui dressait le portrait du comité de transition de la Coalition Avenir Québec. C'est de bonne guerre, hein, parce que François Legault, en avance dans les sondages, peut, lui, dire « je suis prêt ». Je pense que c'est le signal qui est envoyé ce matin. Et donc, je suis prêt à assumer les fonctions de premier ministre, puis je vais être prêt au jour 1. Alors que, tu sais, entre toi et moi, si le Parti québécois disait « voici mon comité de transition », ou si Québec solidaire disait « voici mon comité de transition », ça n'a pas exactement le même impact.
Mais ça fait quand même du monde qui travaille dans le vide. Tu sais, parce qu'il y a une partie de ce monde-là, veut, veut pas, il y a un seul gagnant. Donc,
exactement, exactement. T'as plein de gens qui doivent être en train de plancher sur des promesses du Parti québécois, mais qui savent bien que lundi soir à 8h30, ben, ils vont prendre l'ensemble des documents et ils vont les déchiqueter.
Québec solidaire aurait sous-estimé le coût de deux mesures de 1,25 milliard par année.
Oui, écoute, c'est ce qu'avance Francis Veil ce matin dans les colonnes de la presse. Il y a un étudiant de l'UQAM qui a envoyé un courriel à Francis Veil puis qui a dit « je pense qu'ils ont mal calculé leur patente ». Et Francis Veil a dit « ben envoie-moi tes chiffres, je vais vérifier de quoi ça a l'air ». Puis effectivement, deux promesses qui et Francis Veil fait sienne les conclusions de l'étudiant là, deux promesses qui auraient été sous-financées, puis on parle de 1,25 milliard par année, donc c'est pas rien. J'ai dit sous-financé, je veux dire mal évalué. Et on parle donc de la gratuité scolaire et de l'abolition des écoles privées. Gratuité scolaire, selon cet étudiant-là, et ça fait tout à fait du sens, si c'est gratuit, il va y avoir plus d'inscriptions. Et ce serait donc aux alentours de 27 000 étudiants supplémentaires par année dans le réseau universitaire québécois. Et donc, Québec solidaire n'a pas compté dans son cadre financier ces chiffres-là. Il s'en défend Québec solidaire en disant ouais, mais ça va être graduel, ça sera pas tout de suite la gratuité scolaire, fait que c'est pour ça qu'on l'a pas tout à fait compté. Mais bref, je trouvais qu'un trou de 1,25 milliard par année, ça valait la peine qu'on en parle
important.
Cette année.
Ben oui.
J'ai parlé à certains de mes amis. Moi, j'ai des amis qui votent de tous les partis. Puis, je jasais avec un de mes amis avant hier qui m'a dit « J'ai voté QS pour la première fois dans ma vie. » Et c'est un gars qui a déjà travaillé dans des cabinets politiques. Donc, il sait c'est quoi. Puis, j'ai dit « Écoute, t'as vu le programme, tout ça. » Puis, il dit « Je m'en sac. Tu sais, ils gagneront pas. » Puis, moi, j'ai envie d'envoyer un message clair. Puis, je m'en fous du cadre financier. Puis, je m'en fous que les promesses soient irréalistes sur certains aspects. Moi, cette année, la campagne qui m'a branché, c'est celle de Québec solidaire. Puis, tu sais, je dis pas là si les sondages les mettaient au coude à coude, mm-hmm. Puis là, il faut vraiment regarder qu'est-ce que ça va vouloir dire pour l'année 1, l'année 2, l'année 3. Mais, tu sais, puis je sens qu'il y a vraiment ce vote-là autour de QS.
Ah ben oui. Ce serait fort étonnant de les voir gagner l'élection, mais tu sais, objectivement, la meilleure campagne est possiblement la leur.
Ben, écoute, l'espoir est de ce bord-là. Le fun a l'air d'être de ce bord-là. Fait que les gens se disent, on n'est pas fous, mais on a envie de rêver un petit peu, puis on va voter pour QS. Puis j'ai hâte de voir, il y en a combien. Hein? On va pouvoir les compter
lundi soir
prochain.
Oui,
mais j'ai hâte de voir, il y en a combien. Puis surtout dans une bataille à quatre comme Sherbrooke, est-ce que cet enthousiasme-là va être en mesure de faire passer QS par-dessus les autres partis?
Ce sera à surveiller. Merci beaucoup, Dominique Vallière.
Je t'en prie.